Nos ados ont vu tous les Miyazaki, ils rêvent qu'on les emmène au Japon.
Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio.
Incroyable! Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone.
Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé.
Waouh!
Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel.
Oh, je nous y vois déjà.
Avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre. Au rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.
Figaro Radio. Le Buzz TV. Damien Canivez et Mathilde Seffer.
Figaro Radio.
Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous accueillir dans ce nouveau numéro du Buzz TV. Salut Mathilde.
Salut Damien.
Allez, aujourd'hui nous accueillons sur ce plateau un homme engagé qui a choisi de s'attaquer à celui qu'il considère comme l'insoumis le plus soumis du paysage politique français. Bonjour Éric Nolot.
Bonjour. Bonjour à tous.
Bienvenue sur ce plateau.
Merci beaucoup.
La République, c'était lui. C'est le titre du livre que vous sortez aux éditions Léo Cher. Alors vous y racontez la dérive islamo-gauchiste de Jean-Luc Mélenchon, moins d'un an après avoir dénoncé la trajectoire que vous considérez totalitaire de Sandrine Rousseau. Est-ce que vous avez vraiment l'intention de consacrer un livre à chaque personnalité de la NUPES qui vous exaspère ?
Non, j'ai pris ces deux cas, Sandrine Rousseau et Jean-Luc Mélenchon, parce qu'ils me paraissent représentatifs de deux dérives,
oui.
L'une de la dérive wokiste et l'autre de la dérive islamo-gauchiste. Voilà. Et à mon avis, cette alliance entre les deux, c'est l'alliance des deux principaux dangers, puisque en fait, et le wokisme et l'islamisme ont un but commun, c'est détruire la France. Détruire la civilisation française, la culture française et la France tout court.
En fait, ce livre pourrait s'inscrire dans une collection qui s'intitule « Ceux qui ont décidé de détruire la France ».
Oui, mais c'est exactement ça. D'ailleurs, je m'explique mal qu'on ne prenne pas conscience du danger quand même, qu'on prenne toute la mesure du danger. Ouais. Pour moi, c'est des gens qui n'appartiennent plus à l'arc républicain, qui sont sur un autre agenda, qui veulent vraiment la mort de notre civilisation. C'est pas du tout le jeu politique traditionnel.
Et vous l'avez envoyé à Jean-Luc Mélenchon, ce livre ?
Je l'ai envoyé à Jean-Luc Mélenchon. Je n'ai pas encore de retour. Enfin, vous savez qu'il a pour règle de ne pas débattre avec moi, puisque il pose comme seule condition pour participer à une émission que je ne sois pas présent. C'est ce qu'on appelle un démocrate.
Ah oui, et justement, on va en parler de cette participation à Balance ton poste, participation qu'il a conditionnée à votre absence autour de la table. Voilà. Est-ce que vous avez eu d'autres retours de la France insoumise ou pas ?
Oui, en fait, la France insoumise a lâché sur les réseaux ses trolls, qui me traitent de tous les noms, font des recensions très mal écrites. Ça m'a un peu vexé.
Ah.
Ils pourraient me lâcher aux trousses des gens qui savent écrire, mais malheureusement, c'est très médiocre.
L'orthographe n'est pas leur fort.
Non, ni le reste. Ni l'orthographe, ni la syntaxe, ni le style, ni le fond. Donc c'est assez éprouvant à lire. Ouais. Mais enfin, ça fait réagir. J'ai l'impression qu'il y a un vent de panique quand même.
Ah, il y a un vent de panique. Mais en tout cas, on comprend pourquoi, parce que votre démonstration est implacable, hein, il faut le dire. Et on va en parler dans l'interview du Buzz TV. Mais tout d'abord, je vous propose de découvrir les news médias présentés aujourd'hui par Mathilde Seifert. Allez Mathilde, on commence les infomédias avec la vive émotion de Mathieu Lartaud. C'était ce samedi dans quelle époque ?
Oui, alors le journaliste sportif qui a subi une amputation de la jambe après son cancer du genou était l'un des invités de Léa Salamé ce week-end. Et c'est entre autodérision et larmes qu'il a évoqué son épreuve. C'est la séquence de la lettre de Charlotte Deneau qui l'a particulièrement touchée. Je vous propose d'en regarder un extrait.
L'énergie de ta voix accompagne les exploits, mais ta pudeur niera ta performance à toi. À t'observer parler, on a presque l'impression que tu t'es juste remis d'une banale infection. On pourrait même croire, en marchant à tes côtés, que tu as toujours, au bout des jambes, tes deux souliers. Toi, tu lui as pété la gueule à ce gros crabe. C'est bien fait pour lui, fallait pas demander de rab.
La lettre a ému tout le plateau, l'animatrice Véronica Loubry compris. En effet, son compagnon se bat lui aussi contre un cancer depuis plus d'un an.
Vous regardez quelle époque avec Léa Salamé sur France 2 ?
Oui, je regarde. Moi, je trouve qu'elle a réussi à trouver un ton, une émission, une case. Pourtant, où il y a eu des prédécesseurs prestigieux. On se dit comment elle a...
Dont vous avez fait partie, bien
dont
évidemment.
J'ai fait partie. Enfin, je parlais plutôt des animateurs. Je ne me qualifie pas.
De 2007 à 2011.
De 2007 à 2011. Et puis cette séquence, moi, ça m'émeut beaucoup parce que... Ouais. Moi, j'ai un simple rhume, j'ai des envies suicidaires.
Ah ouais.
Alors, des gens qui doivent combattre des choses 100 fois plus graves avec un tel courage, moi, franchement, je suis pris par l'émotion.
Vous êtes hypochondriaque ?
Non, pas du tout, mais je supporte mal d'être malade.
Je
me sens très vulnérable. Ça devient tout de suite un problème métaphysique plutôt que médical. Donc, j'ai beaucoup d'admiration pour la force d'âme de quelqu'un qui combat un cancer, surtout à ce prix-là.
Et il en faut, effectivement. Évidemment. On poursuit ces news médias avec le retour de Secret Story.
Oui, alors la saison inédite de la télévision télé-réalité sera lancée le mardi 23 avril à 23h30, juste après Koh-Lanta. Et on en connaît désormais les contours, à commencer par sa programmation. En plus de l'émission hebdomadaire, TF1 a prévu une quotidienne tous les jours à 17h30. Les nominations auront lieu le mercredi et les éliminations auront lieu le vendredi. Et pour les plus grands fans, un live sera disponible sur TF1 Plus Max. Ah oui. De 10h à midi et de 20h à 22h.
Ah bah, vous serez au rendez-vous, alors, Eric. Vous êtes rassuré, ça y est.
Écoutez, c'est une très mauvaise nouvelle quand même que vous venez d'annoncer. Parce que, en fait, la télé-réalité, Secret Story, ça a été un peu le lancement.
Oui, après Love Story, absolument.
Ouais, enfin, en France, un peu.
Oui.
C'est quand même... Ça consiste quand même à montrer le plus médiocre de vous-même. Donc avant, ce qu'on demandait aux jeunes, c'est de dire, dans la vie, montrez le meilleur de vous-même. Là, on leur dit, c'est pas la peine, vous foulez pas, montrez le plus médiocre de vous-même et vous deviendrez des stars. Je trouve que le message est catastrophique.
Et ça marche bien. Si vous deviez participer à Secret Story, quel serait le secret que vous aimeriez défendre ?
Ben, je vais pas vous le dire, parce que je ne sais pas de quoi sera fait ma fin de carrière. On sait jamais s'ils m'appellent, je nierai avoir tenu les propos.
Je viens de vous verrez tellement bien dans Secret Story.
Mais j'ai beaucoup de secrets, comme vous tous. Mais je pense qu'il faut garder ses secrets.
Ah, c'est vrai. Vous êtes quand même quelqu'un qui est assez pudique, c'est vrai. Oui, vous ne livrez pas tout.
Ben non, parce que je pense qu'on perd quelque chose en livrant ses secrets et que la transparence devient vite la dictature de la transparence.
Et pourtant, vous êtes parvenu à participer à des émissions, notamment animées par Cyril Hanouna, qui demande beaucoup de vous livrer sur votre vie privée. Vous ne l'avez jamais fait, ça.
Non, vraiment. Je ne l'ai jamais fait. J'ai également beaucoup menti quand on me demandait de le faire, évidemment, pour ne pas dire la vérité. Ouais. Donc, je peux bien vous le dire.
C'est vrai.
Ça reste entre nous. Non, mais ce n'est pas mon truc, ce n'est pas mon registre, je ne serais pas bon.
Oui.
Je serais ridicule, je préfère rester dans ma nature.
Vous racontez votre intimité parfois, mais à travers des personnages, notamment dans votre roman Rousset. Je me souviens très bien d'une espèce de scène à l'hôtel. Enfin, bref, j'ai lu votre livre.
Il y a toujours quelque chose de soi dans les romans, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est caché. C'est pas une confession, c'est pas une autobiographie. Absolument. Vous prenez un masque. Ah oui, derrière le masque, on peut dire des choses. Mais la vérité brute, crue... Non, je trouve que c'est pas très
C'est assez impudique, c'est vrai. Et on termine ces infomédias, Mathilde, avec le chiffre du jour, 453 000.
Oui, alors c'est le nombre de téléspectateurs qu'a réuni Ophélie Meunier pour le lancement de son talk sur M6. Son émission La Grande Semaine, diffusée samedi à 17h35, a essuyé un faible score, se plaçant 6e du classement Médiamétrie. À titre de comparaison, à la même case, Isabelle Lituruburu et son émission 50 minutes Inside avaient réuni 2,2 millions de téléspectateurs.
Et vous, le talk show, l'un des talk shows emblématiques auxquels vous avez participé, on en a parlé tout à l'heure, c'est On n'est pas couché de 2007 à 2011. Est-ce que vous êtes nostalgique de cette époque ?
Je suis nostalgique, oui, dans un sens, parce que c'était mes débuts.
Oui.
Donc il y a une fraîcheur. Après, non pas qu'on soit blasé, mais moi, je suis passé directement, disons, de l'édition à un talk show un peu... C'est un peu improbable, comme jeté dans le grand bain.
Vous avez été starifié à cette époque, quand même.
Oui, exactement. Alors, c'était avant les réseaux. Donc, on a échappé, je pense, à vraiment l'ébullition maximale. Je pense que si ça avait été lancé du côté du temps des réseaux, ça aurait été encore autre chose.
Ouais.
Mais un talk show grand public, tout d'un coup, oui, on est starifié. On est l'objet des discussions autour de la machine à café le lundi. C'est une expérience formidable. Puis c'est là où j'ai rencontré Éric Zemmour,
absolument,
qui est mes meilleurs amis et qui le reste.
Oui.
Donc non, c'est une émission qui m'a beaucoup apporté. Moi, je suis très reconnaissant à Laurent Ruquier de m'avoir donné cette chance. Et cette chance se poursuit puisque je suis toujours là. 17 ans plus tard,
Éric Zemmour, avec qui effectivement vous avez formé un duo mythique, Éric Zemmour qui s'est engagé en politique. À quand votre retour ?
Ben, on me le demande, mais je n'ai pas le caractère pour ça.
Quand vous dites on me le demande, ce sont des responsables politiques qui viennent vous voir pour vous demander.
Oui, ça arrive. Vous savez que la gauche que je représente est un peu orpheline, donc pas d'incarnation. Donc comme il n'y a pas d'incarnation, ils sont tellement désespérés qu'ils se tournent vers moi. Il faut être désespéré pour se tourner vers moi, parce que en fait, moi, mon truc, c'est de lire des bouquins que personne ne lit avec une tasse de café dans la main et deux chats sur les genoux, voyez. Donc c'est ça mon idéal de vie, c'est pas de courir les meetings, les préaux et de débattre à la télévision contre des gens qui vont vous dire non mais les chiffres, laissez-moi parler, etc. Bon, non, donc la situation, est, pour qu'on fasse appel à moi, c'est que la situation de la gauche est grave.
Vous excluez une carrière politique,
oui,
en tout cas.
Oui, absolument, non, c'est pas mon truc.
Donc là, on dit ne jamais dire jamais, mais là vous dites jamais.
Non, mais c'est ce qu'on appelle carrière politique.
Oui.
Avec ce livre, je fais de la politique, au fond.
C'est vrai, vous avez raison.
Avec Rousseau, je faisais de la politique.
Mais vous n'avez pas vocation à être élu.
Non, c'est pas la politique politicienne.
Absolument.
Je les vois, j'ai vu ce que ça a coûté à mon ami Zemmour, quand même.
Oui.
C'est énormément de sacrifices. Et encore lui, il reste un intellectuel, mais je vois que les autres sacrifient tout. Vous n'avez pas le temps de lire, pas le temps d'aller au cinéma, il y a toujours un truc à faire, ça dessèche l'intellect. Moi, écoutez, c'est pas...
Elle vous a coûté cette amitié avec Éric Zemmour ? Parce que vous êtes très fidèle en amitié. La preuve, vous auriez pu dire, bon, écoutez, Éric Zemmour s'est engagé en politique, c'est très clivant, ce n'est plus mon ami. Vous avez choisi de revendiquer cette amitié.
Oui, mais de toute façon, écoutez, il y a quelque chose de très troublant, c'est qu'on a demandé à Saint-Pierre seulement 3 fois de renier le Christ, et moi, on m'a demandé 300 fois de renier Éric Zemmour. Et comme Éric Zemmour et moi-même, nous sommes des personnages insignifiants par rapport à Pierre et au Christ, je trouve la disproportion très étrange. Ouais. Écoutez, vous me dites, est-ce que j'ai perdu ? Mais j'ai gardé l'essentiel.
Vous avez gardé les fidèles.
L'essentiel, c'est les valeurs. Moi, l'amitié, c'est au-dessus de tout. Et Éric Zemmour, c'est un ami pour la vie, c'est un de mes plus proches amis. Il n'est pas question, selon les fluctuations de sa carrière, les fluctuations de l'air du temps, de le renier. Non, ça, c'est impossible.
Vous sortez ce livre intitulé « La République, c'était lui, grandeur et décadence, et déchéance, pardon, du camarade Mélenchon, on pourrait dire décadence aussi, quelque
aussi,
part.
Mais hein, déchéance, c'est mieux.
Déchéance, c'est mieux. C'est aux éditions Léo Cher, donc vous y dénoncez, je vous cite, le cynisme politique de Jean-Luc Mélenchon, dont on va parler dans un court instant. Mais tout d'abord, qu'est-ce qui vous a motivé à l'idée d'écrire ce pamphlet ? Il fallait que ça sorte. On sent quand même que vous avez besoin de dire ces vérités-là.
Oui, enfin, j'ai besoin, je pense qu'il faut prendre la mesure du danger que représente Jean-Luc Mélenchon. Mmh. Voilà, c'est un homme qui est prêt à tout sacrifier à son ambition. Et d'ailleurs, il faut bien le dire que son ambition, c'est pas exactement la prise du pouvoir, parce qu'il sait que c'est presque impossible. Son ambition, c'est d'arriver au second tour, face à Marine Le Pen l'emporte, et à partir de là, il peut jouer en temps réel son fantasme, et le fantasme de Jean-Luc Mélenchon et de ses amis, c'est la Révolution. Mmh. Ce sont des nostalgiques, alors plus de 1793 que 1789, malheureusement, ils sont très, aussi, ils aiment beaucoup les révolutions sud-américaines, ils sont fascinés par la Révolution russe, qui est la continuation de la Révolution française, donc en fait, le but, c'est l'insurrection.
Trotsky, Robespierre, tout cela, ce sont des figure auquel il s'identifie.
Lénine, vous savez que Mme Garrido et M. Corbière ont dans leur salon un portrait de Lénine, l'inventeur du goulag. C'est intéressant. La prochaine fois, ils mettront Hitler à côté. Ça fera, je pense, ça fera un bel effet de symétrie. Et en fait, eux, ce qu'ils veulent, c'est la guerre civile. Donc, ils veulent que dans la rue, il y ait un affrontement entre la République et de l'autre côté, les milices islamiques, les petits voyous de banlieue que M. Mélenchon a soutenus pendant les émeutes, en refusant de condamner les incendiaires, etc. Plus les petits bourgeois très cons, les Black Blocs qui jouent aux révolutionnaires le temps d'un week-end et qui se casse du flic. Donc toute cette coalition-là un peu hétéroclite bien jouera les révolutionnaires dans la rue pour le plus grand plaisir de M. Mélenchon. Moi, ce n'est pas ce que je veux pour la France. Et ensuite, on en parlait tout à l'heure, il y a un projet quand même de destruction de la France, de notre pays, de notre civilisation, de notre culture. Écoutez, ce livre, c'est un livre de colère, mais c'est un livre d'inquiétude. Moi, je suis très inquiet qu'on ne prenne pas la mesure du danger que représente Jean-Luc Mélenchon.
Et alors, justement, on va s'attarder un petit peu sur le titre. La République, c'était lui. Par l'utilisation du passé, vous insinuez que Jean-Luc Mélenchon ne fait plus partie de l'arc républicain.
Ah oui, ça depuis un moment, mais il en a fait partie. C'est pour ça que j'ai tenu à le dire. Mon livre s'ouvre par une scène, donc justement, d'On n'est pas couché, où Jean-Luc Mélenchon arrive, tient des propos extrêmement durs sur l'islamisme, sur le voile islamique.
C'était le 24 avril 2010, absolument.
Oui. 2010, oui, c'est quand même pas Moyen-Âge, 2010, oui, alors les femmes voilées, c'est un scandale, c'est un vêtement
de scène. Ici, c'est la République, je considère que c'est un traitement dégradant, une provocation de certains milieux intégristes contre la République, on va vivre ensemble, on ne se trimballera pas ces fantômes qui se promènent dans la rue.
Voilà, contre la burqa, évidemment, contre le voile, et il tient des propos extrêmement durs, et d'ailleurs, la métamorphose est tellement complète que Mme Boutelja, qui est la meneuse des indigènes de la République, dit, c'est notre prise de guerre principale. Ouais. Elle le qualifie, ce qui est vrai d'ailleurs, de laïcard de dingue à l'origine, puisqu'il était même, on lui reprochait même d'être trop républicain, trop laïque. Laïcard, c'est péjoratif. Et il est devenu le meilleur, enfin le complice, moi j'appelle ça le collabo, de l'islamisme.
Est-ce que vous pensez que le Jean-Luc Mélenchon d'aujourd'hui qualifierait le Jean-Luc Mélenchon d'hier d'islamophobe ?
Non, je pense pas, parce qu'il est dans un pur cynisme. Je pense qu'il n'y a pas de recul là-dessus. Il a lu la note du think tank Terra Nova en 2011. Terra Nova dit, bon, le peuple vote mal, le peuple vote pour le Front National à l'époque, il faut changer de peuple. Donc on va se tourner vers les banlieues islamisées, les minorités sexuelles, les femmes, les bobos, etc. Donc lui, il a lu ça et il a mis en pratique cette note en réalité. Donc je pense que c'est difficile, je ne suis pas dans la tête de Jean-Luc Mélenchon, d'ailleurs je n'y tiens pas, ça a l'air d'être un peu compliqué, mais je pense qu'il y a très très peu de conviction et énormément de cynisme. Je dirais 1% de conviction à force de répéter les mêmes choses, mais 99% de cynisme électoral. À tout prix, conquérir cet électorat des banlieues islamisées, et comme ce sont des gens qui votent très peu, il faut vraiment mettre la dose maximale, pousser le curseur en permanence, jusqu'à qualifier le Hamas de mouvement de résistance, de dire que la marche contre l'antisémitisme, c'est le soutien au massacre à Gaza, etc. Donc, en fait, moi, je mets en garde ceux qui nous écoutent, il n'y aura pas de limite, sachez-le. Émeric Caron, l'une de ses âmes damnées, dit qu'il n'aurait pas voté la loi sur le voile. Donc en fait, ils essayent de mettre à bas tout ce qui fonde la France et la République française.
Et alors ce livre, c'est une charge sans concession contre Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous aimeriez qu'il vous réponde, enfin nous on aimerait, en tout cas qu'il vous réponde, est-ce que vous aimeriez en débattre ensemble ?
Oui, malheureusement, comme on l'a dit précédemment, il refuse tout débat.
Mais vous lui faites peur, qu'est-ce qui se passe ?
Mais j'ai l'impression. Mais vous savez, c'est pas quelqu'un de très courageux.
Oui.
Souvenez-vous de l'épisode où il rencontre Macron dans les rues de Marseille.
Ah oui.
Deux heures plus tôt, il avait dit Macron, xénophobe, machin. Ouais. Et puis il rencontre le président de la République, c'est une carpette. Mmh. Il lui fait même un petit cadeau à la fin, je vais vous offrir une carte de la Méditerranée. Mmh. Bon, ce qui est emmerdant, c'est que les gens qui sont violents et lâches, quand ils sont au pouvoir, ça donne des tyrans sanguinaires.
On l'a vu par le passé, absolument.
On l'a vu par le passé. Mais moi, j'aimerais bien débattre, mais le problème, c'est que c'est pas dans sa culture. Mmh. C'est un trotskiste, on débat pas.
On écarte tous les opposants politiques, même lorsqu'ils font quelque part partie de votre famille politique, c'est-à-dire que dès lors qu'on n'est pas dans la doxa et dans la ligne, tout de suite vous êtes marginalisé.
C'est ce qui est arrivé à Garrido, Corbière, Ruffin, Autain, etc. Vous savez qu'il n'y a pas de militants, il n'y a pas d'adhérents, pas de militants, excusez-moi, c'est pas ça, il n'y a pas d'adhérents à la France insoumise, il n'y a pas d'élection. Donc si vous voulez, si demain Mélenchon se réunit avec sa garde rapprochée, son deux ou trois, il y a Chikirou, Panot, Coquerel et Bompard surtout, et qui dit voilà, je suis candidat à 2027, l'affaire est réglée, il n'y a pas de primaire évidemment, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de délibération. Donc en fait, ils n'ont pas, non seulement ils n'ont pas la culture du débat, mais ils n'ont pas la culture de la démocratie.
Oui, vous dites qu'il n'a jamais été démocratiquement élu au sein de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon. Ça, c'est vrai qu'on peut l'apprendre, et ça peut être étonné, parce que généralement, il y a quand même des élections qui se passent au sein d'un parti pour élire le secrétaire général.
Oui, mais enfin, vous savez, quand vous avez pour héros Lénine, Staline... Ouais. Chavez, Poutine, c'est un soutien de Poutine, il y a des mots extrêmement aimables pour Poutine, on ne peut pas dire que votre cœur balance vers la démocratie, donc il y a une forme de cohérence chez lui. Ce qui est étonnant, c'est que tant de Français qui sans doute se définiraient comme démocrates tombent dans ce panneau, ça c'est étrange.
Je voudrais que l'on revienne sur cette émission Balance ton poste à laquelle vous n'avez pas pu participer, puisque Jean-Luc Mélenchon a demandé à ce que vous en soyez exclu, c'était le 12 février 2021. En coulisses, vous vous êtes néanmoins croisé après l'émission, puisque vous animiez l'after de Balance ton poste. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ?
Il s'est passé quelque chose de très étrange, c'est que comme il y avait une page de pub, on avait un peu de temps, donc moi j'attends poliment devant Cyril Hanouna et Jean-Luc Mélenchon qu'ils aient fini de débriefer. Et puis Cyril s'en va, je croise M. Mélenchon et je lui dis « Bonsoir M. Mélenchon, bonsoir ». Je lui dis « Puis surtout, vive le débat démocratique et l'échange d'idées ». Et là, il revient. Et je suis de ce côté-là, j'ai déjà ma place d'animateur. Il se penche vers moi dans une attitude extrêmement agressive. Genre, il va se reprendre à moi physiquement.
Vous pensiez qu'il allait vous frapper à ce moment-là ?
Je pense. Et moi, parfois, je suis un peu sanguin, pas souvent, mais parfois. Et moi, j'ai fait le tour de la table en me disant « S'il veut se battre, allons-y ». Et il est parti en courant.
Ah, il est parti en courant.
En faisant des petits signes comme ça de
un peu de mépris.
D'accord.
Voilà, je pense que le courage n'est pas la vertu principale de M. Mélenchon, c'est encore plus inquiétant.
Et alors, vous avez partagé le plateau à plusieurs reprises avec Raquel Garrido, actuellement députée insoumise. Vous n'étiez pas franchement les meilleurs amis du monde à l'antenne, mais hors antenne, est-ce que c'était plus cordial entre vous ?
C'est-à-dire que ça n'a pas vraiment d'importance ce qui se passe hors antenne, parce que quand c'était à l'antenne, Mme Garrido... appliquait les méthodes qu'elle avait théorisées dans son livre, le pire livre que j'ai lu de ma vie, je crois. Même l'attaché de presse s'est excusé auprès de moi de m'avoir obligé à le lire, ce qui est unique dans l'histoire de la télévision.
Oui, parce que généralement, un attaché de presse, quand même, essaye de vendre le livre.
Oui, elle m'a dit non, mais là, c'est indéfendable, on est désolé. Bon, ça s'appelait le manuel de guérilla médiatique, et elle expliquait qu'il fallait pourrir les émissions. Ce à quoi elle s'est appliquée, d'ailleurs, à Balance ton pote. Alors, il y avait ça, elle n'arrêtait pas de pourrir l'émission au sens propre, et puis de réclamer de prendre ma place.
Ah oui, aussi, elle voulait devenir animatrice.
Alors, non pas sur ses mérites, puisque vous avez compris qu'à la France insoumise, en fait, c'est au-delà que je m'y mette, donc c'est une manière dictatoriale. Non, c'est épouvantable, ce sont des gens qui appliquent des méthodes antidémocratiques à tout, ils veulent tout pourrir, ils veulent tout conquérir par la force, par, en étant des grandes gueules, en évitant le débat, et c'est celui qui hurle le plus fort qui l'emporte. Ce sont vraiment des gens haïssables, vraiment, dans le détail et dans l'ensemble.
Alors, Éric Nolot, il y a quelques pages quand même qui m'ont interpellé dans ce livre. Celle où vous insinuez que Jean-Luc Mélenchon et David Guiraud sont des homosexuels refoulés. Alors il faut que je replace un petit peu tout ça dans le contexte. Voilà. L'un parce qu'il a affiché sa fascination pour le gilet jaune Éric Drouet, et l'autre, donc là je parle de David Guiraud, parce qu'il a soutenu l'imam Hassan Iqui-Houssen. Comment vous pouvez y voir là une forme d'homosexualité refoulée ?
Alors je précise mon propos. Je parle de David Guiraud et Jean-Luc Mélenchon, mais j'élargis mon propos à l'ensemble de l'extrême gauche.
Oui.
J'observe, mais c'est factuel. J'observe que l'extrême gauche est fascinée par des figures masculines toxiques. Alors, le délinquant, en premier lieu, ils adorent les délinquants.
Oui, il y a une forme de romantisme de la délinquance.
Ah, mais ils adorent. Ouais. C'est la fameuse chanson « Fais-moi mal, Johnny, ouais. Johnny, Johnny ». Oui. Voilà, voilà, le Mac, le mec ouais. qui maltraite, etc. Ils adorent les imams intégristes. Les imams ouais. intégristes, c'est une figure masculine ô combien toxique. Les femmes à la cuisine.
Bien sûr.
Une femme qui sort dans la rue sans son mari, c'est pas possible. Enfin, je vous renvoie au prêche de messieurs Iqüessen.
Ce qui devrait d'ailleurs indigner les féministes qui composent les rangs de la France insoumise.
Absolument. Mmh. Et les révolutionnaires, quand la figure d'Éric Drouet, le gilet jaune, est apparue, monsieur Mélenchon a frôlé l'orgasme, hein, parce ouais. que d'abord c'est un grand barbu baraqué, alors là ça l'émoustillait, et puis en plus il porte le même ah nom ouais. que le type qui a arrêté Louis XVI à Varennes.
Ah oui.
Donc il a fait une note dans son blog, il était vraiment, ce gros barbu, ça lui plaisait bien. Quoi. Et j'observe chez ces gens qu'il y a une volonté de soumission à la force brute que représente l'imam intégriste, le délinquant et le révolutionnaire, parce qu'ils sont fascinés par la violence. Donc c'est pas la France insoumise, c'est plutôt la France soumise. Donc c'est homosexualité refoulée, mais tendance SM. Hein.
C'est ah quand oui, même une niche. C'est loin. Hein.
Ah ben c'est ouais. une niche. Bah, écoutez, ouais. l'homosexualité n'a rien de répréhensible, l'homosexualité oui, oui. refoulée est
bien sûr.
Quelque chose de très documenté. Et le SM, les goûts et les couleurs, enfin plutôt les coups et les douleurs en l'occurrence, puisqu'on parle de SM. Ouais. Mais regardez, il y a un ami qui me dit, mais regarde le cas de Jean Genet.
Oui.
C'est intéressant, Jean Genet, qui était fasciné par les SS, par la force ouais. brute des SS. C'est intéressant ouais. qu'à gauche, il y ait cette fascination pour la violence et une forme de sexualité dévoyée. Ouais. Je trouve qu'on n'a pas assez exploré cette, on n'a pas assez exploré cette piste, mais je vous parie qu'après cette émission, il va y avoir beaucoup d'apprentis ouais. psychanalystes qui vont se pencher sur la question.
Et alors, aux prochaines élections, là, on parle politique, aux prochaines élections européennes, est-ce que vous savez pour qui vous allez voter ?
Non, je ne le sais pas. Si je le savais, je vous le dirais pas, évidemment.
C'était la prochaine question. Figurez-vous,
votez ce
qu'il y a un candidat qui trouve grâce à vos yeux.
Non, parce que je pense qu'il faut prendre le problème à l'envers. Il faut d'abord reconstituer un corpus d'idées de gauche. Enfin, gauche, selon moi, qui est une gauche un peu à l'ancienne. Ouais. Et ensuite, on va trouver une incarnation. Bon, là, il se trouve que celui qui monte dans le camp à gauche, c'est Glucksmann, parce que pour une raison simple, c'est que comme il incarne une gauche séparée de la NUPES, enfin, il était temps, bon,
ouais.
et pro-européenne, ouais. les gens de gauche pro-européens disent, bon, bah là, au moins, on peut voter ouais. sans risque, il n'y a pas de truc mélangé à la NUPES.
C'est une gauche qui se rapproche de la vôtre, mais qui en est quand même malgré tout assez loin.
Oui, c'est pas mon truc, parce que d'abord, ils se sont compromis avec ouais. la NUPES, anti-totalitaire, avec un type qui chante les louanges de Poutine, moi, je veux bien, mais enfin, bon, je trouve que c'est un peu le grand écart.
Ouais.
Et je crois qu'il faut d'abord reconstituer une pensée de gauche, et ensuite, on verra quelle pourrait en être l'incarnation.
Je pense que vous avez vu cette information selon laquelle le Conseil d'État a récemment demandé à l'ARCOM de reconsidérer le pluralisme de CNews,
oui.
chaîne dans laquelle vous rendez de temps en temps, notamment chez Pascal Praud et chez Laurence Ferrari dans Punchline. Le gendarme de l'audiovisuel, donc l'ARCOM, a indiqué qu'il pourrait à l'avenir comptabiliser le temps de parole des éditorialistes. Ouais. Est-ce que on vous classerait à droite ou à gauche, selon vous ?
Ça dépend des sujets, c'est ça qui est absurde.
Ouais.
Et ensuite, là aussi, je voudrais que tout le monde prenne la mesure de cette histoire. Il y a Reporters sans frontières
oui.
qui a demandé à M. Jost, alors contre lequel j'ai rien, il est venu chez Zemmour et Nolot deux ou trois fois, enfin, qui est quand même pas un intellectuel de référence, je sais pas si c'était du football, disons qu'il jouerait en National, plutôt qu'en Ligue 1, et M. Jost dit, mais très tranquillement, j'ai regardé il y a 2 ans pendant 15 jours CNews, il y a un problème parce qu'ils sont pas sur la même ligne que Le Monde et BFM.
Ah,
et
ouais.
c'est à partir de là qu'il y a tout ce ramdam, mais on vit dans quel pays
ouais.
Mais c'est quoi, c'est l'Union soviétique ou quoi Et puis ensuite, les éditorialistes, comment vous allez faire ? Moi, je me sens, sur certains sujets, je peux très bien m'entendre avec des gens de droite, sur d'autres, avec des gens de droite. On est des gens libres. C'est quoi cette histoire de vouloir étiqueter ? Enfin, tout ça est ridicule. Et puis, vous voyez bien que la commission d'enquête, c'est une pantalonnade d'un bout à l'autre. Enfin, c'est une rigolade, quoi.
Absolument. La commission d'enquête s'est tenue à l'Assemblée nationale, présidée par Quentin Bataillon, qui était à votre place sur ce plateau. Ce vendredi, nous recevions une candidate de Danse avec les Stars, également professeure de chant dans Star Academy. Il s'agit d'Aline Tognutti. Elle avait une question à vous poser. Je vous propose de la découvrir.
Éric Nolot, apparemment vous êtes très fort sur le débat politique, mais seriez-vous très fort sur le parquet de Danse avec les Stars ? Est-ce que vous seriez prêt à faire un petit tcha-tcha, peut-être tout en restant insoumis ?
Alors, vous n'avez jamais été vraiment insoumis, hein, il faut le dire à Aline Tognutti quand même.
Mais, ils ont fait une OPA sur ce mot. Hein. Après tout, l'insoumission,
oui,
ça peut être tout à fait noble. Hein, bah, enfin, voilà. Alors, écoutez, je vais être très franc. je suis nul. Sur un parquet d'or, je suis nul. Mais nul, c'est un peu même en dessous de nul. Mais alors, je ne peux que progresser.
C'est le degré zéro de la danse.
Je ne peux que progresser. Alors, je ne me rends pas bien compte du tcha-tcha si c'est vraiment quelque chose de très, très difficile par rapport au reste.
On ne va pas pouvoir vous aider. En attendant, on n'est pas vraiment des professionnels de la danse.
En revanche, je veux bien prendre une leçon, par exemple. Mais écoutez, je crains vraiment d'être un cas désespéré.
Il n'y a jamais de cas désespéré, vous savez. Il y a eu Djibril Cissé dans cette émission. Vous pouvez toujours faire mieux. Allez, on termine cette émission avec notre dernière rubrique au suivant. Nous recevrons à votre place Claude-François Junior, qui est donc, sans surprise, le fils de Claude-François. Il promet de raviver l'esprit et les chansons qui ont marqué des générations lors d'une croisière qui se déroulera en octobre prochain. Est-ce que, déjà, vous êtes nostalgique de cette époque, Claude-François ?
C'est très étrange le rapport que j'ai avec Claude-François à la variété française, parce que moi, en fait, j'ai été élevé comme tout le monde, il n'y avait que ça. En fait, on n'écoutait que ça à la radio, les shows de Mariti et Gilbert Carpentier, c'était ça. Mais moi, du jour au lendemain, j'ai découvert le rock et le punk. Alors tout ça, ça a été balayé, mais en 5 secondes. Moi, j'écoutais Claude-François, ça ne me serait même pas venu à l'idée. Mais j'aimais bien quand même, parce qu'il y avait quelque chose, il y avait une énergie. Alors, c'était pas du rock, mais il y avait une énergie. Donc, je ne suis pas nostalgique de cette époque, parce que moi, je suis nostalgique de ma découverte du rock.
Voilà. Mais c'est vrai que la musique a beaucoup évolué depuis Claude-François. Aujourd'hui, l'artiste francophone la plus écoutée au monde, c'est Aya Nakamura, qui est pressentie pour chanter lors de la cérémonie des Jeux Olympiques. C'est une bonne ou une mauvaise idée selon vous ?
C'est une très, très, très mauvaise idée.
Pourquoi ?
Mais très mauvaise idée parce que Aya Nakamura, c'est le plus merdique de la musaque, c'est-à-dire la musique mondialisée.
Ah oui.
C'est la maltraitance du français. C'est l'autotune. Alors moi, je suis pour l'interdiction de l'autotune, ou en tout cas un moratoire sur l'autotune.
Donc dans ce cas-là, Aya Nakamura ne peut pas vous plaire.
Oui. Non, et surtout la maltraitance du français, et c'est aussi la vulgarité incarnée. Donc, c'est pour ces quatre raisons, d'ailleurs, qu'elle a été choisie, puisque, en fait, la politique qui est menée actuellement, c'est la politique du pire, c'est-à-dire de l'abaissement du niveau. Vous avez vu que tout est fait pour que le niveau scolaire s'effondre, et donc, bah, écoutez, la seule raison du choix d'Aya Nakamura, c'est en fait d'être cohérent avec l'effondrement.
Eh bien, merci beaucoup Eric Nolot. On peut pas vous reprocher votre franchise. Je rappelle que vous sortez ce livre intitulé La République, c'était lui. C'est aux éditions Léo Cher. Merci beaucoup d'avoir été notre invité.
Nos ados ont vu tous les Miyazaki. Ils rêvent qu'on les emmène au Japon.
Alors, je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio.
Incroyable. Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone.
Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé.
Waouh.
Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel.
Oh, je nous y vois déjà.
Avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre. Au rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.